VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 20 juillet 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
À RDC, Joseph Kabila n'a pas dit spécifiquement s'il était ou non candidat à un troisième mandat dans son discours tant attendu.
Au Cameroun, arrestation de 4 militaires en rapport avec une vidéo devenue virale sur l'exécution sommaire de 2 femmes et de leurs 2 enfants.
Au Togo, le pouvoir accusé par l'opposition de ne pas respecter les recommandations des facilitateurs pour une sortie de crise.
Entretien hier au Niger de la ministre française des Affaires des Armées, Florence Parly, en soutien à la force anti-djihadiste du G5 Sahel.
Des discussions sont en cours pour un deuxième sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, annonce la porte-parole de la Maison-Blanche.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila s'est engagé à nouveau hier à respecter la Constitution sans dire un mot sur son avenir politique à 5 mois d'une présidentielle censée élire son successeur à la tête du pays qu'il dirige depuis 17 ans. La date des élections fixée au 23 décembre 2018 reste maintenue et notre engagement à respecter la Constitution demeure lui aussi non équivoque, a déclaré M. Kabila dans une allocution au Parlement.
L'organisation des élections en RDC est une affaire de souveraineté et par conséquent financée par l'État congolais, a-t-il affirmé, en vantant son bilan à la tête du pays. Le discours de Kabila était très attendu par la classe politique congolaise et les partenaires de la RDC qui espéraient que le chef de l'État congolais dirait un mot sur son avenir politique.
Nous reviendrons sur ce discours de M. Kabila et les réactions qu'il a suscitées en RDC avec Thierry Kabundi en seconde partie de cette édition.
Au Cameroun, 4 militaires ont été arrêtés après la diffusion d'une vidéo devenue virale et sont présumés responsables de l'exécution sommaire de 2 femmes et de leurs 2 enfants, accusés d'être des djihadistes de Boko Haram de Yaoundé. Les précisions de notre correspondant Emmanuel Jules-Ntap.
La mise aux arrêts de ces 4 militaires fait suite à une enquête instruite depuis le 11 juillet dernier par le président Paul Biya. 3 des 4 militaires identifiés dans la vidéo d'exécution sommaire devenue virale appartiennent au corps de l'armée de l'air camerounaise. Une source de sécurité sous anonymat a confié à VOA Afrique que ces militaires ont été arrêtés par les éléments de la sécurité militaire dimanche dans la région de l'extrême nord du Cameroun. 3 ont été convoyés à Yaoundé, où ils sont auditionnés depuis lors. Le 4e militaire est encore détenu à Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord. Cette semaine, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, les organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme ont demandé au Cameroun de mener une enquête urgente, transparente et totale au sujet de la vidéo d'exécution sommaire. Le gouvernement et l'armée qui avaient affirmé que la vidéo en question était un horrible trucage, n'ont pas encore réagi officiellement sur l'enquête en cours. Depuis le début de la guerre contre Boko Haram en 2015 dans la région de l'extrême nord, l'armée camerounaise a été accusée plus d'une fois par Amnesty International de violation de droits de l'homme. Yaoundé a parfois sanctionné certains soldats et nié la majorité des accusations. Emmanuel Jules-Ntap, Yaoundé, VOA Afrique.
Au Togo, la coalition de l'opposition accuse le pouvoir de ne pas respecter les recommandations des facilitateurs pour une sortie de crise. Une position formulée à l'occasion d'une rencontre avec le commissaire des affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, le général Francis Béanzin. Le point avec Irénée Emmanoumbo.
Même si 19 prisonniers politiques ont bénéficié cette semaine d'une grâce présidentielle, 57 personnes sont encore détenues dans des prisons, dénonce Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition togolaise. Monsieur Fabre accuse aussi le gouvernement togolais de ne pas respecter les recommandations de la facilitation, notamment la libération des personnes détenues, la liberté de manifester sur l'ensemble du pays et l'arrêt du processus électoral. Depuis septembre, des dizaines de milliers de Togolais sont descendus à plusieurs reprises dans les rues à l'appel de la coalition de l'opposition l'opposition pour réclamer non seulement le départ du président Faure Gnassingbé, mais aussi l'application de la constitution de 1992 qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana et Alpha Condé de la Guinée, facilitateurs de la crise, ont rencontré les deux parties le 27 juin dernier à Lomé. Ils doivent faire des propositions aux dirigeants ouest-africains lors du prochain sommet de la CEDEAO prévu fin juillet dans la capitale togolaise.
La ministre française des armées, Florence Parly, a rencontré hier au Niger son homologue Kala Moutari et le président Mahamadou Issoufou pour renforcer la dynamique opérationnelle de la force anti-djihadiste du G5 Sahel. Pour son 7e déplacement dans la région, Madame Parly a visité le poste de commandement du fuseau centre de la force militaire conjointe à Niamey et s'est également rendue à Wallam, à 100 km au nord de la capitale nigérienne, pour visiter des troupes françaises de l'opération anti-djihadiste Barkhane qui soutiennent celle du G5 Sahel.
Au Zimbabwe, les autorités assurent que les listes électorales ont été soigneusement nettoyées de tout électeur fantôme et de tout doublon. Claire Morin-Gibou.
Les listes électorales ont toujours été un sujet sensible au Zimbabwe, où les scrutins du temps de Robert Mugabe ont été entachés de fraude. Le nouveau président Emmerson Mnangagwa a promis des élections libres, justes et transparentes. Mais l'opposition affirme que les listes sont bourrées d'erreurs. La ZEC, la commission électorale zimbabwéenne, s'est payée une page de publicité dans la presse pour démentir ces allégations. La ZEC assure avoir vérifié tous les noms d'électeurs, soi-disant fantômes. Elle affirme que les électeurs qui ont les mêmes noms et les mêmes dates de naissance ont prouvé qu'ils avaient des photos et des empreintes digitales différentes. La ZEC a aussi nié que des personnes décédées aient été rajoutées aux listes électorales. Le MDC, le principal parti d'opposition, n'est pas convaincu. Il veut organiser mardi prochain un sit-in de protestation devant le siège de la ZEC. À Harare.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des discussions sont en cours entre Washington et Moscou pour la tenue d'un second sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. La nouvelle a été annoncée via les médias sociaux par la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders. Selon elle, M. Trump a demandé à son conseiller en matière de sécurité nationale, John Bolton, d'inviter M. Poutine à Washington pendant l'automne et que les discussions ont déjà commencé.
En attendant, le président Trump ne permettra pas que des responsables américains soient interrogés par la justice russe, annonce de la Maison-Blanche, alors que l'idée avait été évoquée par son homologue Vladimir Poutine lors de sa rencontre avec Donald Trump. Nicolas Pineau fait le point.
C'est une proposition qui a été faite en toute sincérité par le président Poutine, mais le président Trump n'est pas d'accord, a expliqué hier Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison-Blanche. Lors de sa conférence de presse controversée avec Donald Trump, lundi dernier à Helsinki, Vladimir Poutine avait proposé de permettre à Washington d'interroger en Russie les 12 agents de renseignement russes inculpés aux États-Unis pour ingérence dans la présidentielle américaine de 2016, mais à la condition d'une réciprocité. Moscou demandait en retour un interrogatoire de responsables américains soupçonnés par la Russie d'activités illégales, y compris l'ex-ambassadeur américain à Moscou entre 2012 et 2014, Michael McFaul. Un peu plus tôt hier, le président américain avait rappelé que le sommet avec la Russie avait été un grand succès selon lui, Donald Trump disant même attendre avec impatience sa deuxième rencontre avec Poutine. Fait remarquable, M. Poutine avait quelques heures plus tôt, lui aussi, dénoncé les critiques visant M. Trump, stigmatisant les forces aux États-Unis, prêtes à sacrifier les relations russo-américaines à leurs ambitions.
À quelques jours de discussions décisives avec le président Trump, l'Union européenne se dit prête à sortir des sentiers battus pour mettre fin aux tensions commerciales avec les États-Unis tout en se préparant à taxer de nouveaux produits américains en camp d'offensive sur ses voitures. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, doit rencontrer M. Trump le 25 juillet à Washington avec l'objectif de désamorcer le conflit commercial qui menace de s'aggraver entre Européens et Américains.
En Syrie, des rebelles ont accepté jeudi de céder les territoires sous leur contrôle dans la province de Kounitra, qui borde la partie du Golan annexée par Israël, et ce, au terme d'une série d'accords ayant permis au régime syrien de prendre des secteurs clés.
Au Nicaragua, le président Daniel Ortega a accusé hier les évêques de vouloir participer à une conspiration visant à le destituer. « Cela m'a fait mal que mes évêques se soient comportés comme des putschistes. Ils se sont disqualifiés comme médiateurs », a dit M. Ortega à l'occasion de la commémoration du 39e anniversaire de la révolution de 1979.
Vous écoutez VOA Afrique, fin de ce journal.
L'AMUNETECO, Eric Manirakiza.
L'Éthiopie va bientôt utiliser à nouveau le port d'Assab dans le sud de l'Érythrée, sur la côte occidentale de la mer Rouge. Les préparatifs sont actuellement en cours, notamment les réparations de la route menant au port d'Assab. Des travaux similaires se font également du côté de l'Érythrée. L'accès au port d'Assab en Érythrée permettra à l'Éthiopie de réduire sa dépendance au port de Djibouti. Plus de 90% du commerce éthiopien transite par Djibouti, ce qui représente 70% de son produit intérieur brut. Le transporteur Ethiopian Airlines envisage aussi une prise de participation dans la compagnie Eritrean Airlines. La Banque africaine de développement BAD va octroyer à la Namibie 218 millions de dollars pour financer le budget 2018-2019 du gouvernement. Il permettra de renforcer la gestion des finances publiques et d'améliorer la qualité et l'efficacité des dépenses du gouvernement. Le nouveau financement devrait également servir à jeter des bases solides pour l'industrialisation en soutenant les réformes essentielles de l'environnement des entreprises. Le produit intérieur brut du Ghana devrait bondir de 30 à 40%. Accra va adopter un nouveau système de calcul de son produit intérieur brut pour mieux refléter le poids des secteurs florissants des hydrocarbures, des technologies, de la communication et du BTP. Cette révision permettra d'augmenter la taille de l'économie ghanéenne de 30% ou plus. En 2017, le FMI indique que le produit intérieur brut du Ghana a atteint 47 milliards de dollars et place le pays au 11e rang à l'échelle africaine.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Fédération égyptienne de football a été sanctionnée par la FIFA.
L'instance nationale du football égyptien a été condamnée à payer une amende de 43 000 euros pour ne pas respecter une période de repos de ses joueurs avant le mondial en Russie du 21 au 27 mai, leur faisant disputer durant cette période un match amical contre le Koweït. Le club égyptien du Zamalek Sporting a aussi été condamné à des amendes pour des salaires non payés aux joueurs. Cinq autres clubs, le FC Kuban en Russie, le club turc de Mersin İdman Yurdu, Al Arabi Sport et Al Karaitiyat du Qatar et Al Jazeera SC des Émirats Arabes Unis ont tous subi le même sort. Ils risquent de perdre des points et de se voir interdits de recrutement s'ils ne s'acquittent pas de leurs dettes envers les joueurs dans les délais impartis.
Le gardien du Maroc a signé à Malaga.
Oui, gardien titulaire des Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde, Mounir Moha a bouclé une compétition de qualité avec notamment ses arrêts mémorables contre l'Iran et le Portugal. À 29 ans et après 4 saisons passées à Numancia, le portier marocain s'est engagé pour un an en faveur de Malaga, relégué en deuxième division espagnole. En Andalousie, il retrouvera ses compatriotes Badr Boularoud, Youssef N. Nesri et Adnan Digadaouni.
La décision du tribunal arbitral du sport sur l'exclusion de l'AC Milan de l'Europa League est attendue aujourd'hui.
L'audience a débuté hier. Les arbitres du TAS ont confirmé qu'une décision finale va tomber aujourd'hui. L'instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA a décidé fin juin d'exclure l'AC Milan de la prochaine édition de l'Europa League pour lequel il s'était qualifié sur le terrain. L'ICFC estime que le club a violé les règles du fair play financier concernant notamment la nécessité d'équilibre financier.
Autre discipline, la boxe, toujours sous la menace d'être retirée du programme des JO 2020.
Et oui, le CIO a de nouveau maintenu hier la menace de retirer la boxe du programme des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Il dit toujours attendre de la Fédération internationale de boxe des mesures concrètes concernant la gouvernance et la gestion. L'instance olympique a également indiqué avoir maintenu la suspension du versement de ses aides financières à la structure fêtière de la boxe en raison des inquiétudes concernant, entre autres, la gouvernance, l'éthique et la gestion financière.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sebouya, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur le discours d'hier du président Joseph Kabila devant l'Assemblée nationale et le Sénat de la RDC réunis en congrès. Si dans sa famille politique on salue un discours souverainiste qui révèle des avancées significatives qu'a connu la RDC dans tous les secteurs, en revanche, les opposants à Kabila, qui le soupçonnent de vouloir briguer un troisième mandat consécutif en violation de la Constitution, sont déçus qu'il n'ait pas dit clairement qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle de décembre prochain. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Un discours bilan de ses 17 ans au pouvoir, souverainiste, mais qui n'a pas levé l'équivoque d'un éventuel troisième mandat consécutif. Les Congolais ont diversement salué l'adresse à la nation du président Joseph Kabila devant le Parlement réuni en congrès ce jeudi 19 juillet 2018. Pour Geneviève Inagosi, députée nationale de la majorité présidentielle et ancienne ministre du genre, le bilan rappelé par le président Kabila souligne les avancées significatives qu'a connues la RDC sous son règne. Elle précise par ailleurs que politiquement, Joseph Kabila a rappelé son engagement à respecter la Constitution.
Il y a eu des grandes avancées, mais c'est vrai que nous n'avons pas encore atteint l'objectif, mais l'essentiel est que nous puissions évoluer dans le bon sens. Pour la question que tout le monde se posait, je pense que vous avez suivi la réponse. Le président de la République, comme depuis plusieurs années d'ailleurs, a réitéré son engagement à respecter la Constitution. Il a rappelé que le processus électoral est irréversible et que le 23 décembre 2018, il y aura bel et bien élection avec tous les hommes et toutes les femmes qui remplissent les conditions légales d'éligibilité. Je pense que le message a été clair.
Didier Molichaud, député national proche de l'opposant Moïse Katumbi, parle lui d'un discours ambigu.
C'est un discours ambigu parce que nous savons tous que le président de la République a épuisé ses deux mandats. Il ne peut pas de la même façon dire qu'il va respecter la Constitution et se projeter en affirmant sa passion pour le Congo. Nous pensons que le peuple doit rester vigilant parce que lui-même, le président, dans son discours, il parle de la souveraineté. La souveraineté revient au peuple congolais. Le peuple congolais doit rester vigilant. On s'attendait à un discours clair parce que son discours a eu deux parties. La première partie où il faisait pratiquement le bilan de ses 17 années de pouvoir, mais là où il n'a pas été clair, c'est quand il parle de perspective, il s'inscrit dans le perspective. C'est comme si il se voyait toujours candidat aux prochaines élections présidentielles.
Jean Kimbunda, un autre député de la majorité présidentielle, appelle lui la communauté internationale à un effort d'honnêteté pour reconnaître que la République démocratique du Congo est un modèle en matière de démocratie pour avoir respecté la Constitution, alors que Déli Sessanga, secrétaire général d'Ensemble pour le Changement, rappelle que Joseph Kabila aurait dû dire clairement qu'il ne briguera pas de troisième mandat consécutif. Dans les rues de Kinshasa, les commentaires convergent vers un seul point, la déception que le président Kabila n'ait pas clairement fixé l'opinion sur son avenir politique.
Malheureusement, c'était un rendez-vous manqué. Il n'a rien dit. Il savait les attentes de la population, c'est-à-dire qu'ils disent clairement qu'il ne va pas se représenter.
On est vraiment déçus. Le président Joseph Kabila devait nous donner d'abord sa position par rapport aux élections. Est-ce qu'il doit, il devait encore postuler ou pas? Moi, de ça, il devait quand même nous faire voir le dauphin, qu'on s'attendait à ça. Mais malheureusement, il n'a rien dit concernant les dauphins. Il ne nous a rien dit concernant sa position. Il va postuler ou pas, il n'a rien dit. Donc jusque-là, nous sommes restés dans des suspenses.
J'ai suivi son discours avec une attention particulière. Il n'a vraiment pas prononcé ce que le peuple congolais attendait.
En tout cas, moi j'ai aimé. Parce qu'il a d'abord fait les bilans, l'évaluation d'abord de cette nation congolaise. J'ai apprécié en tout cas. Mais ce qui est regrettable par rapport aux élections, le chef de l'État n'a rien dit.
Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
En Centrafrique, la suspension des activités de MSF à Bria n'est pas sans conséquence. Des cas de décès d'enfants dus au paludisme sont déjà enregistrés sur le site de PK3, où sont massés plus de 40 000 déplacés. L'eau potable devient une denrée rare. Le correspondant de VOA Afrique à Bangui, Freeman Sipila, s'est rendu sur place.
La ville de Bria, contrôlée depuis plusieurs mois par des groupes armés, échappe au contrôle de l'État. Les attaques ciblées contre des humanitaires et des opérateurs économiques y sont devenues monnaie courante. Début juillet, la base locale de MSF a été pillée et le personnel brutalisé. Cette énième agression a poussé l'organisation humanitaire à suspendre ses activités dans la ville. Deux semaines seulement après ce retrait, la situation humanitaire ne cesse de se détériorer. Des cas de décès des enfants sont signalés sur le grand site des déplacés de PK3 et dans les quartiers. À l'hôpital, le médecin-chef s'inquiète. Docteur Jean-Mathias Amadou.
Sur la semaine allant du 9 au 15, nous avons consulté près de 72 enfants. Mais contrairement aux statistiques qu'on avait avant avec la présence de Médecins Sans Frontières, c'était plus que ça. D'où on s'inquiète. On s'inquiète du fait qu'il n'y a plus de référence de la périphérie à l'hôpital et surtout de PK3 à l'hôpital. Ce qui veut dire que les enfants qui ont des problèmes de santé dans ces coins en périphérie de la ville et dans les sites de déplacés, ces enfants sont soit traités par les charlatans, sont soit pris en charge par des personnes non qualifiées.
Sur le site des déplacés du PK3, avoir de l'eau potable n'est plus une mince affaire. Pour en avoir, il faut des heures de bousculade. Cette femme s'en plaint.
Na PK3, ils vivent les conséquences.
Ici, sur le site de PK3, nous souffrons sérieusement. Nous demandons à la MINUSCA de nous prêter main forte concernant nos besoins sanitaires et en eau potable. Nous sommes très attristés avec le départ de MSF. Nous sommes vraiment en détresse. Pour avoir de l'eau, il faut faire la queue le matin jusqu'à 14h, voire 17h, 18h. C'est très pénible.
D'après jusqu'à 14h, il a 17h à 18h.
Depuis la suspension des activités de MSF, seule l'ONG Oxfam fournit de l'eau aux déplacés. Elle doit désormais faire face à un afflux de personnes dans le besoin, des personnes venues des 16 blocs du site. En mission en République centrafricaine, Ruan Liu, présidente internationale de MSF, annonce des dispositions en cours pour la reprise des activités de l'organisation humanitaire à Bria.
C'est avec déchirement qu'on a retiré nos équipes et présentement nous sommes en réflexion pour voir quelles seraient les conditions pour un retour. Donc voilà, c'est au cœur de nos préoccupations. C'est des choses qu'on ne fait jamais à la légère et on en a discuté avec le ministre de la Santé et nous essayons de trouver l'adéquation pour un retour.
En 2017, MSF a réalisé près de 50 000 consultations et pris en charge plus de 350 blessés dans la ville de Bria. Freeman Sipila Bongui, VO Afrique.
La voix de l'Amérique, Bongui 101.7 FM.
Sur fond de crise écologique, économique et sociale, les 10 pays du Sahel ont de nombreux défis à relever. Le plan de soutien de l'ONU au Sahel, qui vient de paraître, a pour objectif d'intensifier les efforts pour accélérer la prospérité partagée et la paix durable. Pour un éclairage, Ekia Badou a joint à New York Ibrahim Thiaw, conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel.
Essentiellement pour répondre aux trois crises, donc la crise écologique, le changement climatique font que l'agriculture devient une activité difficile. La compétition pour l'accès aux ressources en eau, aux ressources en terre et aux ressources végétales engendre de plus en plus de conflits. Et également, les autres axes concernent, si vous voulez, le côté économique. La plupart des pays du Sahel sont classés parmi les plus pauvres au monde. Et le troisième axe, c'est le côté social, le côté sécuritaire. Malheureusement, il y a une forte migration irrégulière et tout un tas de trafic humain, de trafic illicite qui s'opère dans la région.
Quand on lit le rapport, ce qui est assez flagrant, c'est votre envie de travailler ensemble, de ne pas venir apporter quelque chose sans le concours des populations. Quelles sont les garanties, l'optimisme que vous avez pour pouvoir travailler ensemble avec les différents partenaires?
Alors, ce que nous constatons au Sahel, c'est qu'en dépit des difficultés, les populations sont debout, arrachent le maximum d'énergie à la terre et pour produire. Les populations font des activités de commerce et essaient de subvenir à leurs besoins. Donc le rôle des Nations Unies, bien sûr, c'est d'aider cet effort. Nous avons adopté aussi une posture beaucoup plus constructive en parlant du Sahel comme étant une terre d'opportunités. Cela demande bien sûr une coopération avec tous les acteurs. Le plus difficile maintenant, c'est d'assurer la coordination et la cohérence de toutes ces interventions pour éviter la dispersion d'efforts. Donc il faut valoriser toutes ces ressources. Avec l'énergie, on peut maintenant peut-être faire de plus en plus de débarquement des poissons pêchés au large des côtes ouest africaines. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et le débarquement des ressources halieutiques, ça veut dire transformer ces produits sur place, créer des millions d'emplois. garder les jeunes sur place plutôt que d'exporter les matériaux en matière brute et également exporter la main-d'œuvre pour qu'elle aille faire la transformation des produits dans d'autres régions du monde. Peut-être revoir le genre de contrats qui sont signés avec les partenaires et les compagnies étrangères de manière à créer davantage d'emplois et à créer davantage de revenus.
Alors cette valorisation et ce travail de fond, il y a deux agendas, l'agenda 2030 et l'agenda 2063. Pourquoi ces dates ?
2030, c'est les objectifs du développement durable qui ont été adoptés ici aux Nations Unies en 2015. 2063, c'est la date butoir de l'agenda de développement de l'Union africaine. Les objectifs de l'Union africaine et ceux, bien sûr, du système des Nations Unies sont très compatibles.
C'était Ibrahima Thiaw, conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel. Après la saturation des marchés européens, les trafiquants de drogue dure ciblent l'Afrique, entraînant une augmentation du nombre de consommateurs sur le continent. D'où l'ouverture au Sénégal, il y a 3 ans, du tout premier centre ouest-africain de réhabilitation des toxicomanes de Dakar, récit de Sophia Christensen, repris ici par Lionel Gahima.
Omar a goûté à l'héroïne pour la première fois dans les années 1980, alors qu'il était étudiant à Paris. De retour au Sénégal, ce quinquagénaire note que l'héroïne et la cocaïne ont fait une incursion dans son pays.
J'ai connu l'héroïne en France. Le gars avec qui tu parlais également, il a connu l'héroïne en France. Mais moi, si on peut agir, d'un certain âge, c'est pas le cas d'un jeune qui a 25 ans ou 27 ans qui a connu l'héroïne ici. Vous comprenez? Moi, mon cas, moi, j'ai connu l'héroïne en Occident. Mais les jeunes ne connaissent pas l'héroïne en Occident, mais ici, ils le trouvent ici, ils le voient ici.
De l'avis des experts, la consommation des drogues dures en Afrique tend à supplanter celle du cannabis, jusqu'ici la substance la plus répandue. 1,8 million de personnes consommaient de la cocaïne en 2016 en Afrique centrale et de l'Ouest, estime l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Selon Pierre Lapague, représentant régional de cette agence, le Sénégal est un pays de transit de la drogue provenant de l'Amérique latine et destiné à l'Europe. Les barons de la drogue tentent de créer de nouveaux marchés en Afrique, explique l'expert onusien.
Un consommateur de drogue, quelle que soit cette drogue, est généralement un homme de moins de 25 ans, généralement d'une couche, sociale moyenne ou moyenne inférieure. Or, si vous voulez, en Afrique, il y a 1 milliard d'habitants, il y aura 2 milliards dans quelques décennies. 50% de cette population est par nature des hommes. Et la classe émergente, c'est justement cette classe-là. La classe sociale émergente, c'est celle-là.
Au CEPIA de Dakar, des infirmières pèsent des patients et font des prélèvements de sang. Lancé en 2015 et subventionné par l'État sénégalais, c'est le tout premier centre ouest-africain de traitement de la toxicomanie. Est le seul habilité à administrer de la méthadone. Le CEPIAD a déjà accueilli plus de 2000 patients, souligne son directeur Idriss Abba.
Le profil s'est beaucoup diversifié aussi. De plus en plus, nous recevons des jeunes. Nous recevons aussi, en quantité, peut-être en nombre faible, relativement faible, des femmes aussi, qui ont des problèmes avec ces substances psychoactives.
Cette année, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a lancé un cours en vue d'aider les travailleurs de la santé à identifier les différentes formes de toxicomanie et y répondre. Le docteur Adama Koundoul, directeur d'un hôpital psychiatrique de Ziguinchor, dans le sud du pays, suit ce cours.
La particularité de Ziguinchor, c'est en fait une région carrefour. C'est une région qui est enclavée entre deux grands pays, deux autres pays, la Gambie, la Guinée-Bissau, aussi bien aussi, donc la Guinée-Conakry. Et en plus de ça aussi, c'est une région qui est fréquentée par le tourisme. Donc c'est une région quand même qui reçoit beaucoup de touristes. Et c'est une région où les campements touristiques sont très développés et ne sont pas tout le temps encadrés. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand même, on se rend compte que vraiment donc la drogue est présente donc dans cette région.
En 2007, les autorités sénégalaises ont saisi 1,2 tonnes de cocaïne près de la ville côtière de Nanning. Des petites quantités continuent d'être interceptées et détruites, mais de l'avis des experts, il reste encore beaucoup à faire contre les substances nocives, surtout avec l'afflux des drogues de synthèse.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et à Georges-Léonard Sagnou pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.